Louis attendit que la dame de parage et la petite princesse, la première apparemment plus effrayée que l'autre, fussent sorties.
« Je ne veux plus voir cette bâtarde !» dit-il.
« N'êtes-vous si certain qu'elle le soit, Louis ?» dit le comte d'Evreux,
en éloignant du feu ses vêtements pour qu'ils ne roussissent pas.
« Il suffit pour moi qu'il y ait doute, et je ne veux rien reconnaître d'une femme qui m'a trahi.
Cette enfant est blonde, pourtant, comme nous le sommes tous. »
« Philippe d'Aunay lui aussi était blond !» répliqua amèrement le hutin.
Le comte de Valois vint porter appui au jeune roi.
« Louis doit avoir de bonnes raisons, mon frère, pour parler comme il le fait, » dit-il avec autorité.
« Et puis, » reprit Louis X en criant, « je ne veux plus entendre ce mot qu'on m'a lancé tout à l'heure au passage. Je ne veux plus le deviner sans cesse dans la tête des gens. Je ne veux plus donner d'occasion qu'on le pense en me regardant. »
Louis d'Evreux se retint de répondre, « Si tu avais meilleure nature, mon garçon, et plus de bonté au cœur, ta femme, tu peux être aimé. » Il songeait à la malheureuse petite fille qui allait vivre entourée seulement de serviteurs indifférents dans l'immense hôtel de Nel désert. Et soudain, il entendit Louis prononcer
« Ah, je vais être bien seul ici !»
D'Evreux, avec une stupéfaction apitoyée, contempla ce neveu qui conservait ses ressentiments comme un avare son or, chassait les chiens parce qu'il avait été mordu, chassait sa fille parce qu'il avait été trompé et se plaignait de solitude.
« Toute créature est seule, Louis, » dit-il gravement.
« Chacun de nous subit dans la solitude l'instant de son trépas. Et c'est vanité de croire qu'il n'en est pas ainsi des instants de la vie. Même le corps d'épouse avec lequel nous dormons demeure un corps étranger. Même les enfants que nous avons engendrés nous sont personnes étrangères. Sans doute, le Créateur l'a voulu ainsi pour que nous n'ayons chacun communion qu'avec lui et tous ensemble qu'en lui. Il n'est de remède à cet isolement. » Que dans la compassion et la charité, c'est-à-dire dans le savoir que les autres souffrent même mal que nous. Les cheveux humides et pendants, le regard vague, la chemise collée sur ses flancs maigres, le hutin avait l'air d'un noyé qu'on vient de sortir de scène. Il resta un moment silencieux. Certains mots, comme ceux justement de charité ou de compassion, ne faisaient pas de sens pour lui. Il ne les entendait guère plus que le latin des prêtres. Il se tourna vers Robert d'Artois.
« Ainsi, Robert, vous êtes certain qu'elle ne cédera pas ?»
Le géant, toujours à se sécher et dont les choses fumaient comme un chaudron, secoua la tête.
« Sire mon cousin, comme je vous l'ai dit hier soir, j'ai pressé votre épouse de toute manière et usé sur elle mes plus solides arguments.
Je me suis heurté à telle dureté de refus
que je puis bien vous assurer qu'on n'en obtiendra rien.
Savez-vous sur quoi elle compte ?» ajouta d'Artois avec perfidie.
« Elle espère que vous mourrez avant elle. »
Louis X toucha instinctivement à travers sa chemise le petit reliquaire qu'il portait au cou. Puis, s'adressant au comte de Valois,
« Eh bien, mon oncle, vous voyez que tout n'est point aisé comme vous l'aviez promis, que l'annulation ne me paraît pas pour demain. »
« Je le vois, mon neveu, et j'y pense fort, » répondit Valois.
« Mon cousin, si vous craignez de jeûner, » dit alors Robert d'Artois, « je pourrais toujours fournir votre couche de douce femelle, que la vanité de servir au plaisir d'un roi rendra bien accueillante. »
Il parlait de cela avec gourmandise, comme d'un rôti à point ou d'un bon plat en sauce. Charles de Valois agita ses doigts chargés de bagues.
« Mais d'abord, à quoi vous servirait-il, Louis, d'avoir votre mariage annulé, dit-il, tant que vous n'aurez pas choisi la nouvelle femme que vous voulez épouser ?» « Ne vous inquiétez point tant de cette annulation, un souverain finit toujours par l'obtenir. Ce qu'il vous faut, c'est choisir dès à présent l'épouse qui fera auprès de vous belle figure de reine et vous donnera descendance. »
Monseigneur de Valois avait cette manière, quand un obstacle se présentait, de le mépriser et de sauter aussitôt à la prochaine étape. À la guerre, il négligeait les îlots de résistance, les contournait et allait attaquer la citadelle suivante. Cela lui réussissait parfois.
« Mon frère, » dit d'Evreux, « croyez-vous donc la chose si aisée dans la situation où se trouve Louis ? Et s'il ne veut pas prendre femme qui soit indigne d'un trône ?
Allons donc, je vous nomme 10 princesses en Europe qui passeraient sur de plus grandes difficultés pour l'espoir de ceindre la couronne de France. Tenez, sans chercher davantage, ma nièce Clémence de Hongrie, »
dit Valois comme si l'idée venait de germer en lui alors qu'il la mûrissait depuis une bonne semaine. Il attendit que sa proposition ait produit un effet. Le hutin avait relevé la tête intéressé.
Elle est de notre sang, puisqu'elle est en joue, poursuivit Valois. Son père, Carlo Martello, qui avait renoncé au trône de Naples-Sicile pour revendiquer celui de Hongrie, est mort depuis longtemps. C'est sans doute pourquoi elle n'a pas encore d'État. Mais son frère, Caroberto, règne maintenant en Hongrie et son oncle est roi de Naples. Certes, elle a un peu dépassé l'âge ordinaire du mariage.
Quel âge a-t-elle ? Demanda Louis X inquiet.
22 ans. Mais cela ne vaut-il pas mieux que ces fillettes qu'on amène à l'hôtel alors qu'elles jouent encore à la poupée et qui, lorsqu'elles grandissent, se révèlent pleines de vilainies, mensongères et débauchées ? Et puis, mon neveu, vous n'en serez plus à vos premières noces.